au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
En matière de sexualité, nous sommes libérés, mais libérés de quoi ? Un mot d'ordre semble avoir dominé mai 68, vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Mais certains disent désormais que cette libération sexuelle, loin de nous affranchir, nous a au contraire asservis aux intérêts du marché, avec, par conséquence, un hyper-consumérisme, y compris dans l'intimité. Nous assistons aussi, par ailleurs, à des bouleversements de mœurs, avec en 1999 le Pax et désormais la perspective d'un mariage homosexuel. D'autres y voient une révolution anthropologique, certains pour s'y réjouir et d'autres pour le déplorer. Et Pascal Bruckner, tout récemment, ancien de 1968, constate toutes ces évolutions. Je le cite, « À l'époque, je croyais que l'aventure de nos ancêtres était à jeter au feu. Le leitmotiv était « Tout est permis, tout est possible et la jouissance est obligatoire. Le mariage et l'infidélité étaient des antiquités, on réhabilitait l'inceste. La révolution sexuelle accompagnait la révolution tout court. Aujourd'hui, dit-il, je pense que certaines valeurs, notamment le mariage et la fidélité, possèdent plus de sagesse que nous le croyons à l'époque. Face à toutes ces évolutions, à tous ces changements, il faut prendre un peu de recul, faire un pas en arrière, réfléchir et faire appel au temps long, celui de l'histoire. C'est pourquoi nous avons la chance et l'avantage de recevoir Michel Rouche. Michel Rouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez enseigné à Lille et vous avez terminé votre carrière comme professeur à Paris 4 Sorbonne. On vous connaît pour différents ouvrages et en particulier pour deux grosses biographies, un Clovis en 1996 et un Attila en 2009, qui vous a valu d'être reçu ici sur ce sujet-là. Et vous avez publié et republié en 2008 une petite histoire du couple et de la sexualité, des entretiens avec Benoît de Sagazan, qui vous ont valu tout récemment le prix Leroy Beaulieu, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques, où vous essayez de faire une histoire du couple et de la sexualité, où vous essayez, et c'est ça ma première question, de faire plutôt une contre-histoire du couple et de la sexualité, considérant qu'il semblerait, de page en page, que vous enfoncez comme ça différentes idées reçues qui sont tellement évidentes pour tout le monde qu'on est étonné, page après page, de voir qu'elles ne le sont sans doute pas. Donc, première question, est-ce que vous avez voulu faire, peut-être par agacement d'historien, une contre-histoire du couple et de la sexualité ?
Plutôt une autre histoire, étant donné qu'au fur et à mesure que j'approfondissais mes connaissances sur la fin de l'Antiquité et les débuts du Moyen-Âge, qui sont mes périodes de prédilection, je m'apercevais, en étant en même temps responsable de l'Institut de la Famille du diocèse de Paris, qu'en réalité, nous avions affaire à des réalités psychologiques, humaines et historiques profondément ignorées, étant donné que ma conviction, au fur et à mesure que j'ai étudié cette époque, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de véritables analphabètes du cœur. Par conséquent, il est indispensable que nous découvrions notre héritage en profondeur, derrière les clichés actuels, derrière ce qui est la vulgate datant, comme le dit Bruckner, de 1968. Cet ensemble d'idées recouvre en réalité des réalités totalement différentes de celles que l'on croyait en 1968.
Alors on va commencer par le commencement, parce qu'il apparaît évident pour tout le monde, hein, il suffit d'ouvrir la radio, de lire des journaux, il paraît évident qu'au commencement de l'histoire du couple et de la sexualité, il y avait le père, il y avait le système patriarcal, il y avait la domination paternelle, et c'est ce que dit par exemple Françoise Héritier, qui nous parle de la domination masculine qui, depuis 500 000 ans, est le modèle dominant de notre humanité. Et ce modèle archaïque dominant, pour reprendre son expression, donc a exercé une triple privation sur les femmes. Privation de l'usage de leur corps, privation de l'accès au savoir et privation de l'accès au pouvoir. Donc cette évidence-là de la domination du système patriarcal, vous semblez considérer qu'il n'en est absolument rien et vous dites au commencement était non pas le système patriarcal mais au commencement était le système matriarcal. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que Françoise Héritier se trompe et avec elle beaucoup d'autres
au commencement,
sur ce commencement.
Au commencement était la femme. Parce que les sociétés primitives, ou dites primitives, ont considéré que l'enfantement par la femme était quelque chose de prodigieusement divin, respectable, et que par conséquent, c'était elle qui faisait tenir toutes les sociétés à venir, puisque par l'enfant, elle recréait le monde devant elle. Donc, les premières manifestations artistiques que nous connaissons, comme par hasard, ce sont des représentations de déesses mères. Et tous les panthéons religieux des sociétés antiques reposent fondamentalement sur le culte de la déesse mère et sur le fait que c'est elle qui dirige tout, avec des constantes qui ont duré jusqu'à la disparition des derniers païens, par exemple, en Europe. Pour les Scandinaves, dans la mythologie scandinave, le soleil, qui pour nous est masculin, est de genre féminin, et la lune est de genre masculin. Ça veut dire que c'est l'élément féminin qui commande le monde et qui commande la génération dans le monde. Il a fallu de nombreux siècles pour s'apercevoir que l'homme participait quand même à cette naissance. Et la suprématie féminine n'en a pas moins été organisée de manière telle que dans les systèmes tribaux depuis le paléolithique ont été tournés autour d'une domination féminine. C'est par exemple l'existence d'un système que nous avons du mal à imaginer, paraît-il, c'est le système de la polyandrie. Dans des tribus anciennes et dans certaines tribus archaïques au fin fond de l'Inde, comme les Ranutaru ou des tribus d'Afrique noire, la polyandrie existe encore.
La polyandrie, vous voulez dire ?
C'est-à-dire que la femme a plusieurs époux et elle s'unit à plusieurs hommes, si possible, le plus souvent possible, pour que justement l'enfant qu'elle puisse avoir soit beau, grand, fort et devienne le guerrier admirable qui protégera la tribu contre l'autre tribu voisine. Il y a là une conception qui nous paraît ahurissante, mais qui est due au fait que, premièrement, la femme étant multi-orgasmique, il est normal qu'elle s'unisse plusieurs fois de suite à plusieurs hommes différents. Cela lui permet d'être pleinement elle-même et d'avoir non seulement les satisfactions et les jouissances du corps, mais aussi l'exercice du pouvoir. Puisque dans ces systèmes matriarcaux, on a la preuve que jusqu'au XIe, XIIe siècle, en plein Moyen-Âge, il y a eu des mères de famille qui, ne connaissant pas justement le nom du père, choisissent comme père putatif le frère aîné. Et alors à ce moment-là, le frère aîné, l'oncle maternel, devient celui qui s'occupe de l'éducation des garçons. Et par exemple, pour revenir au pays scandinave, le père adoptif, l'oncle maternel, est appelé le père efforceur, alors que l'authentique père est parfaitement inconnu.
Alors, quelles sont les caractéristiques de ce système matriarcal ? C'est-à-dire que c'est la femme qui décide de quoi ? Du couple, de la sexualité, du pouvoir ?
C'est elle qui choisit les époux, aussi bien pour ses enfants que pour elle-même. C'est elle qui possède les biens mobiliers, étant donné qu'on est dans des tribus nomades en particulier, et même lorsqu'on est dans des systèmes sédentaires, elles sont propriétaires des biens meubles. Et de plus, ces femmes peuvent exercer la direction par le fait que, sur le plan religieux, elles sont la plupart du temps des prêtresses ou des chamanes capables de divination par l'utilisation des baguettes d'érable ou d'aunes qu'elles jettent dans des chaudrons où elles préparent des sacrifices. Et ce sont elles qui sont à l'origine de la pratique des sacrifices humains, qui nous sont décrits par exemple par Strabon pour les peuples des Cimmériens et des Celtes. Et le texte est absolument indiscutable, il a été renforcé par la découverte archéologique du cratère de Vix, car Carcopino croyait qu'il s'agissait d'un cadeau diplomatique. En réalité, ce grand cratère capable de contenir 120 litres de liquide, qui était en réalité le sang des victimes mélangé avec du vin et qu'on offrait en quelque sorte en potion magique aux hommes qui partaient en guerre dans la plus grande nudité et en état d'érection, parvenaient à terroriser complètement leurs adversaires, y compris les Romains, qui étaient absolument stupéfaits devant cette population qui se jetait à leur assaut. Et derrière, il y avait des femmes qui excitaient au combat. Les femmes tambourinaient sur les cuirs des chariots des peuples des Cimbres et des Teutons et excitaient les hommes à la guerre et à la violence, tout autant que les femmes avec leur you-you sur les toits des Casbahs pendant la bataille d'Alger. C'était exactement le même phénomène. Il y a une particularité de la violence féminine qui est d'une puissance bien supérieure à celle de l'homme, parce qu'à ce moment-là, toute sa sensibilité bien plus riche que celle de l'homme, lui permet de donner une force à sa propre violence que n'a pas la violence masculine.
Alors, est-ce que ce système matriarcal, il est lié uniquement aux sociétés primitives, ou est-ce qu'il est lié seulement aux sociétés païennes, ou à certaines régions? Et jusqu'à quand est-ce qu'il s'est maintenu?
Il est lié aux sociétés primitives, il est lié aux sociétés païennes, et selon que ces sociétés se sont en quelque sorte reculées dans les coins les plus isolés de la Terre, elles ont quasiment survécu jusqu'au début du XXe siècle. Ce sont là des constantes que l'on ne veut pas voir et que les ethnologues et les anthropologues ne veulent pas voir, sous prétexte que les mythes des sociétés encore au stade dit primitif que les ethnologues découvrent concernent essentiellement des créations du monde par les femmes. C'est le cas en particulier de Godelier, sous prétexte que ce sont des mythes selon lesquels les femmes auraient créé le monde et seraient à l'origine du monde. On prétexte du fait que ce sont des mythes pour nier la racine historique de ce mythe. En fait, il y avait effectivement, dans les sociétés les plus anciennes, une mémoire de cette violence qui avait permis de survivre dans des sociétés qui étaient aux limites de la vie. Donc sur ce plan-là, la femme était en quelque sorte celle qui assurait la sauvegarde de tribus en état de sous-alimentation, en état de famine ou de misère, selon les guerres qui éclataient avec les tribus voisines. Donc, la disparition n'a lieu que lentement. Ça apparaît d'abord chez le peuple d'Israël, le peuple grec et le peuple romain, avec, par exemple, le Lévitique, qui, mis par écrit vers 120 avant Jésus-Christ, mais qui remonte probablement à des réalités des années 600 ou 500 avant Jésus-Christ, décrit des sociétés matriarcales comme celles qui existaient à Canaan avant l'arrivée des Israélites. Si le Lévitique interdit l'inceste et interdit au père de coucher avec sa fille ou à la mère de coucher avec son fils, la peine de mort est requise par le Lévitique. Et il est bien précisé dans le Lévitique, comme cela se pratique en Canaan.
Parce que vous faites du système matriarcal à la fois un système extrêmement violent, d'une part, et deuxièmement, vous dites, par exemple, pour l'Antiquité et pour la Grèce, que l'exemple de la disparition de Sparte a mis en évidence les limites de ce modèle matriarcal.
Tout à fait, parce qu'au bout d'un certain temps, on constate que l'exercice de la violence, certes, permet des succès absolument extraordinaires, et c'est comme ça que Sparte, effectivement, a pu battre Athènes. Mais quand on regarde cette société quelques siècles après ses victoires, aux alentours de l'ère chrétienne, on constate que le nombre des citoyens spartiates a décru considérablement et que les femmes sont devenues propriétaires de tous les biens et qu'on est dans un régime gynécocratique où seules les femmes commandent et où on s'étouffe littéralement. Lorsque les touristes romains venaient assister au sanctuaire d'Artemis Ortygia, aux séances où l'on fouettait les jeunes garçons en l'honneur de la déesse qui était l'équivalent d'Aphrodite, eh bien, il s'agit vraiment d'un monde disparu et on se rend compte que ces mariages spartiates où la femme se faisait enlever par l'homme puis s'unissait à lui en pleine nuit, dans l'obscurité, en s'étant déguisée en homme, les cheveux rasés avec des moustaches dessinées au charbon sur la lèvre supérieure, on a vraiment affaire à un système où la femme dirige, même si petit à petit il y avait une évolution vers un certain patriarcat. En réalité, le matriarcat s'est survécu dans le régime patriarcal par le biais de la matrilinéarité.
Mais pour en terminer sur le matriarcat, vous dites donc qu'il y a un lien direct entre la guerre, la violence et le matriarcat, c'est ça?
Exact. C'est une espèce de conséquence inéluctable et en même temps, c'est un système défensif. Cela permet à ces groupes humains en petit nombre, épars dans une nature qui ne connaît pas la ville, qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas le droit, de parvenir à survivre. C'est la survie qui commande en quelque sorte le matriarcat. À partir du moment où apparaissent des gros villages, puis des villes, en Assyrie, en Babylonie, en Israël, en Grèce ou à Rome, à partir de ce moment-là, on va basculer petit à petit dans un système patriarcal, c'est-à-dire que la violence va être régulée et on va essayer de la réguler par le biais d'une invention qui, certes, devait exister à cette époque-là, mais c'est une inversion des systèmes antérieurs. En système matriarcal, l'adultère féminin n'existe pas. Mais à partir du moment où on passe au système patriarcal, l'adultère devient quelque chose digne d'être réprouvé parce qu'il y a un désir dans ces sociétés de connaître enfin le père.
Parce que vous, ce que vous dites, c'est que le passage du matriarcat au patriarcat doit être considéré comme un progrès.
C'est un progrès. C'est un progrès, parce qu'à partir du moment où on passe au patriarcat, ça veut dire que l'homme exige la virginité de l'épouse pour être sûr que les enfants qu'elle mettra au monde sont bien les siens. Avant, il ne le savait pas. Et qui est-ce qui gagne dans cette histoire-là à ce nouveau système? Ce sont les enfants. Les enfants, à partir de ce moment-là, ont deux parents, alors qu'avant, il n'y en avait qu'un. C'est là une nouveauté considérable et qui fait que les liens sociaux peuvent être beaucoup plus forts et que des liens de consanguinité peuvent apparaître avec beaucoup plus de prégnance que dans le système antérieur. Il y a là une nouveauté considérable.
Et ce passage donc se fait donc avec Rome, après Rome?
Oui, au sortir de la société étrusque, avec la loi des 12 tables, ou bien les lois de Gortyne en Grèce, ou bien le code d'Hammurabi dans les sociétés hittites et les sociétés assyriennes. Et à ce moment-là, la régulation des rapports entre l'homme et la femme apparaît parce qu'il s'agit d'une part d'être maître en quelque sorte des enfants qui vont advenir au monde et régler les conflits non plus par la suppression totale de l'adversaire, non plus par la violence absolue, mais par le droit. Et la mise par écrit des lois écrites fait que le droit de vengeance, qui est un droit absolu dans les sociétés primitives, peut être commencé à être jugulé.
Donc ce système de patriarcat qui se met progressivement en place et qui tente à séparer, si j'ai bien compris, la mère des enfants, donc d'instaurer le père comme ayant un rôle, si ce n'est à égalité, du moins important dans la société. Le basculement s'opère à partir de quelle époque?
Il s'opère à partir, mettons, de l'an 1200 à l'an 600 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que l'on découvre que qui dit sexe dit section. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a prise de conscience de la différence sexuelle et d'un système humain reposant sur la masculinité et la féminité, même si la féminité est soumise juridiquement, très étroitement, effectivement, au patriarche.
Donc on est loin des 500 000 ans de domination.
Et comment? Il s'agit d'un système qui s'instaure très lentement et qui profite justement aux pays où il y a création des villes et mise par écrit d'un droit qui va régler au niveau du droit privé et puis surtout au niveau du droit public, avec la création de l'État à Rome, qui est un phénomène fondamentalement nouveau. Le bien de la société va être non plus aux mains de la femme, mais il va être aux mains d'un organe extérieur aux hommes du peuple. Cela va être un organe politique chargé de viser le bien commun de la société.
Mais ce passage donc du matriarcat au patriarcat se fait-il au détriment toujours de l'autre, au détriment soit de l'homme pour le matriarcat, soit de la femme pour le patriarcat?
Il est certain que le passage au patriarcat se fait au détriment de la femme et que juridiquement, la femme est considérée comme étant soumise à l'homme et le chef, le père, dirige l'homme et les enfants. Et d'ailleurs, à Rome, dans l'époque primitive, le père a le droit de vie et de mort sur son épouse et sur les enfants. Mais il faut bien souligner que cela ne veut pas dire que la société romaine est pour autant une société monogame. S'il y avait polyandrie dans le système ancien, il va y avoir polygamie dans le système nouveau. Et les concubines sont souvent très nombreuses dans les familles romaines. Il y a une espèce de renversement de système, on passe à l'autre excès en quelque sorte.
Nous allons marquer une petite page de musique et nous reprenons donc notre entretien. Reprenons notre entretien avec Michel Rouche à propos de la petite histoire du couple et de la sexualité et que je me suis permis d'intituler la contre-histoire ou une autre histoire du couple et de la sexualité. Donc nous avons vu dans notre première partie effectivement ce qu'il en était de cette domination du matriarcat pendant très longtemps, contrairement aux idées reçues, et ce passage considéré comme un progrès du matriarcat au patriarcat et avec les défauts de domination inversée sur la femme dans le patriarcat qui était l'inverse du système antérieur pour l'homme. Venons-en, si vous voulez, à l'idée du monothéisme qui progressivement s'installe, et en particulier du christianisme. Alors pour le christianisme, tout le monde est d'accord aussi là-dessus, autre idée qui semble évidente, que le christianisme a instauré un mépris du corps, un dégoût de la sexualité, un rejet de toutes les formes de plaisir qui peuvent d'une manière ou d'une autre exister. Et vous vous dites pas du tout, de ce point de vue-là, le christianisme n'a rien inventé et tout vient d'avant. Alors expliquez-nous cette antériorité.
Le fait qu'à Rome et en Grèce, le mariage repose essentiellement sur un contrat et sur la désignation des époux par les parents. Malgré l'adage du juriste romain Ulpien, consensus facit nuptias, le consentement fait les noces. On aboutit, en insistant sans arrêt sur le contrat, au fait que puisque le contrat a été noué sur la décision de deux personnes, les parents, pourquoi ne serait-il pas dénoué ? Et alors à ce moment-là, le divorce devient quelque chose de normal dans la société romaine, y compris en même temps avec le biais de la répudiation, et on assiste bientôt au fait que ce sont les femmes qui répudient les hommes. De plus, étant donné qu'il n'est pas question dans ces couples de prendre un homme et une femme de conditions sociales différentes, le mariage romain doit être un mariage de situation homologue sur le plan social. Un sénateur doit épouser une fille de sénateur, un boulanger doit épouser une fille de boulanger. Eh bien, le contrat devient de plus en plus insupportable pour beaucoup et un censeur romain est même allé jusqu'à dire il faut se marier par civisme. Ce qui fait que le mariage romain n'est guère une situation attirante. Et ceci vous explique que lorsque les femmes divorcent, d'autant plus qu'elles ont été mariées très très jeunes, ce sont des mariages d'impubères à 7-8 ans, on s'aperçoit que le divorce est pour elles quelque chose d'extrêmement pratique parce qu'elles vont enfin pouvoir, en tant que femmes divorcées, aller se découvrir et se chercher ou même se trouver un amant de cœur qui pourra les satisfaire et vivre en concubinage, bien que le concubinage n'existe pas sur le plan juridique. À Rome, c'est un état de non-droit. Eh bien, le spectacle de ce concubinat qui se développe de plus en plus aux dépens du justum matrimonium, c'est-à-dire du mariage conforme au droit, fait dire aux philosophes et à tous les penseurs anciens, vous voyez, les femmes ne pensent qu'à ça. Et il faut les marier le plus vite possible, dès l'âge de 7-8 ans. C'est la seule manière de les rendre fidèles et de faire en sorte que leur sexualité soit maîtrisée. Et puis, il y a le souvenir de l'ancien matriarcat où les femmes sont multi-orgasmiques, donc extrêmement dangereuses sur le plan sexuel. Donc, il y a un pessimisme qui apparaît chez les philosophes antiques, et en particulier chez les stoïciens, et ceux-ci prônent un mariage qui serait de plus en plus un mariage d'amitié, un mariage où les sens n'auraient pas leur part, et un mariage où tout ce qui concerne les questions de la sexualité serait passé sous silence. Le stoïcisme a nettement inventé le puritanisme. Et le stoïcisme n'est pas le seul dans ce cas-là. Les néoplatoniciens ont aussi une horreur profonde du sexe. L'empereur Julien l'Apostat détestait les unions charnelles. Et ce phénomène du puritanisme se répand aussi ailleurs dans le monde, mais pour les mêmes raisons, à savoir comment réguler le désir dans le mariage. Les Chinois en particulier ont été, à certaines époques, tantôt laxistes, tantôt puritains. Les manuels de l'art de la chambre à coucher qui décrivent l'art et la méthode pour un homme vivant en système polygamique de se maîtriser parfaitement pendant les unions charnelles afin de ne pouvoir éjaculer qu'avec la dernière épouse à laquelle il s'unit, eh bien, ces techniques de qu'on appellerait aujourd'hui les techniques de l'acte interrompu ou de l'union interrompue ou de l'union réservée, ces techniques sont violemment contestées à certaines époques. Ce qui fait que on prône les manuels de l'art de la chambre à coucher dans l'époque des royaumes combattants, on les brûle publiquement à l'époque des Sing, puis de nouveau à l'époque des Han antérieurs, cela redevient quelque chose de normal. Ensuite, à l'époque des Song, de nouveau, le puritanisme reprend le pouvoir. À l'époque des Ming, c'est l'inverse. Et à l'époque des Manchus, de nouveau, le puritanisme chinois triomphe lorsque les Européens arrivent. Donc le puritanisme est une technique de maîtrise sexuelle indépendante de toute religion.
Mais est-ce que ça veut dire que le puritanisme est la conséquence logique de cette domination du mariage par des intérêts sociaux et par donc une domination d'intérêts des individus, mariage entre personnes de même rang social, consentement des parents qui vaut pour les enfants, etc., etc., et qui donc considère que la sexualité, le plaisir, la chair sont secondaires, si ce n'est même sans intérêt, dans un mariage. Donc, est-ce que ce n'est pas l'ordre social, la primauté de l'ordre social, de la reproduction sociale qui conduit à ce puritanisme-là ?
Le mariage est un acte politique et social. C'est essentiellement ça, ce qui fait sa composante. On estime qu'une société s'écroule s'il n'y a plus de mariage. Et c'est une vision propre à tous les philosophes antiques, que ce soit Platon, que ce soit Aristote, que ce soit Plotin. Et les stoïciens, ils sont tous d'accord là-dessus. Donc il faut surtout que le mariage devienne la structuration interne de la société. Et les premières mesures de protection du mariage ont été prises par l'empereur Auguste, qui était absolument furieux du comportement de sa fille Julia, qui avait de nombreux amants et qui, lorsqu'on l'a félicité pour le fait que ses enfants ressemblaient vraiment à leur père, Agrippa, celle-ci répondait d'un ton provocateur « Ah, mais moi, je ne prends de passagers que lorsque la cale est pleine ». Donc elle estimait que la fidélité était un devoir social, mais pas du tout par respect pour son mari. Et elle passait son temps à avoir de nombreux amants pour se constituer un parti politique, tout simplement.
Mais quand vous dites donc puritanisme romain, est-ce que ça veut dire puritanisme romain sur les questions de sexualité et ou de chair, ou plutôt une forme de dédoublement, disons de strabisme sexuel, où il y aurait d'une part le mariage, où il ne se passe rien, et d'autre part, par ailleurs, l'expression de la sexualité par amant, concubinage,
d'autres formes. Il peut y avoir les deux, la société qui se reproduit par le mariage légal, et puis la soupape de sécurité qu'est le concubinat.
Sans parler des prostituées.
Sans parler des prostituées. Rappelez-vous, par exemple, la lettre de Pline l'Ancien à propos de l'assassinat d'un grand sénateur par ses esclaves. Lorsqu'on apprend la mort de ce grand propriétaire, ce grand sénateur, concubinée comme ululatue concurrente. Les concubines accourent toutes avec des hurlements. Il y a là un double standard, pour parler comme les démographes anglais du XVIIIe siècle.
Donc l'idée, c'est que le puritanisme que l'on dit être d'origine chrétienne est en réalité plutôt d'origine, disons, romaine, pour
oui,
le faire simple.
Et générale humaine, puisque même les Chinois l'ont aussi pratiqué sans connaître ce qui se passait en Occident. Si vous voulez, c'est une technique de maîtrise de la sexualité. Enfin, les adeptes du puritanisme croient que c'est une technique de maîtrise de la sexualité. Tout comme les partisans du laxisme dans le domaine de la sexualité sont persuadés que la liberté sexuelle sera le plein épanouissement de l'homme. Or, dans les deux cas, on pose un tabou avec les puritains sur le plaisir dans l'union charnelle uniquement en faveur des enfants. Et dans le cas du laxisme, on pose un autre tabou qui est le tabou sur l'enfant et l'exaltation du plaisir dans l'union charnelle. Ces deux attitudes sont contradictoires et s'annulent.
Alors, qu'est-ce que la révolution chrétienne, qu'est-ce que le christianisme va modifier dans cette conception-là, à la fois du mariage, de la sexualité et du couple ?
Eh bien, les païens ont été très surpris de voir cette religion nouvelle apparaître. C'est l'étonnement de Galien, le médecin de Marc Aurèle, dont les résultats scientifiques ont été considérés comme normaux et ont été utilisés jusqu'au XVIIIe siècle. Galien dit ce qu'il y a d'extraordinaire chez les femmes chrétiennes, outre leur courage face aux martyrs, c'est leur retenue sexuelle. Typiquement romain comme raisonnement. On se dit, il y a quelque chose qui est totalement inouï. Normalement, ce sont les femmes qui sont déchaînées sur le plan sexuel. Comment se fait-il que chez les chrétiennes, il y ait une retenue ? Je crois que cela est dû justement au fait que la théologie du mariage, qui très tôt affirmée dès Tertullien et même bien avant, consiste essentiellement à reposer sur le fait que l'union charnelle étant une union qui reproduit celle du Christ et de l'Église, est un sacrement et qu'elle est du domaine de la divinité. Il y a là une vérité théologique qui peut paraître surprenante, mais qui, pour les premiers chrétiens, est fondamentale, puisque l'Église, étant l'épouse du Christ, l'Église doit se comporter comme le Christ s'est comporté envers son épouse, et vice-versa. Cette révolution ne frappe évidemment qu'une toute petite minorité. La théologie du mariage a même rencontré énormément de difficultés pour être comprise et appliquée. Il a fallu en particulier expliquer en long et en large pourquoi il y avait indissolubilité du mariage et donc refus du divorce. Au IIIe et IVe siècle, cela ne va pas de soi. Et le fait de vivre en dehors du mariage avec une concubine a toujours été considéré comme normal, même par certains chrétiens, à commencer par saint Augustin.
Alors vous dites qu'il y a, dans cette révolution anthropologique du christianisme, il y a d'une part effectivement l'union charnelle qui est considérée comme étant un sacrement, d'une part, et il y a deux autres points qui apparaissent dans votre livre et qui sont tout aussi importants. Un, l'égalité de l'homme et de la femme, et deuxièmement, le consentement, non pas des parents, mais de ceux qui se marient. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux autres points, donc l'égalité de l'homme et de la femme, et le consentement de ceux qui se marient et non pas des parents. Donc on sort du côté ordre politique ou ordre social.
Voilà, on entre dans la prise en considération du sexe féminin, puisque, comme dit Augustin, la femme n'est pas une erreur du Créateur. Elle est vraiment une égale, et tous les passages de Paul dans l'Épître aux Éphésiens sont là pour renforcer ce type de considération. Égalité de l'homme et de la femme, donc dans le consentement, c'est-à-dire que ce ne seront plus les parents qui diront le consentement à la place des enfants, et cela veut dire que le mariage étant une chose extrêmement importante, on va petit à petit lutter contre les mariages impubères. Et ce qui est une occasion d'augmenter la liberté du consentement des jeunes, et en particulier la liberté des femmes. Et là, ces efforts commencent à apparaître comme étant réels et comme étant concrétisés au 4e et au 5e siècle, lorsqu'on fait des statistiques sur les inscriptions chrétiennes donnant les années de mariage des païens et des chrétiens, on s'aperçoit, par ces analyses statistiques, que les couples païens se sont mariés en moyenne vers 12-13 ans, alors que les couples chrétiens, qui se distinguent nettement des païens, se sont épousés aux alentours de 15-16 ans. Il y a une augmentation, il y a une élévation de l'âge au mariage. Et c'est une tendance constante. Plus l'âge au mariage s'élève, plus effectivement la capacité de liberté des époux apparaît, ainsi que la capacité de consentement de la femme.
Vous dites une chose qui est absolument sidérante, enfin, que je ne connaissais pas, mais on en apprend tout le temps dans votre livre page par page, c'est que sous l'Ancien Régime, enfin pour sauter un tout petit peu, mais pour continuer là-dedans, nombreux sont les procès faits par les parents aux curés qui ont procédé à des unions matrimoniales sans le consentement donc des parents.
C'est exact. Et c'est le combat séculaire de l'Église pour obtenir la liberté du consentement des enfants. Cette liberté du consentement, on la voit appliquée dans de nombreux cas à l'époque carolingienne, ainsi qu'au Moyen-Âge, puis surtout dans la fin du Moyen-Âge au XIVe et XVe siècle, lorsqu'apparaissent des mariages clandestins, où les jeunes finissent par comprendre que le clergé veut la liberté du consentement des époux. Alors à ce moment-là, les mariages clandestins se développent de plus en plus, mais deviennent extrêmement gênants parce qu'ils sont en quelque sorte destructeurs de l'équilibre social. Et les parents protestent vertement en disant « la société va à volo ». Si il suffit qu'un garçon et une fille disent devant trois personnes « on se marie », même sans la présence d'un prêtre, il n'y a pas de raison que ce mariage soit reconnu comme légitime et comme sacramentel. Et donc, le Concile de Trente, pour trancher définitivement l'affaire, car il y a eu plusieurs autres interdictions antérieures, déclare dans le décret Tametsi de 1563 que la liberté du mariage doit être absolument totale et que les époux doivent consentir publiquement à leur union devant des témoins et devant un prêtre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît le registre paroissial sur lequel est inscrit les noms des époux, les noms des témoins, qui fait qu'encore aujourd'hui, un mariage peut être déclaré nul s'il n'y a pas de témoins, même à un mariage religieux. Les témoins sont absolument indispensables. Et de plus, ces époux doivent être en dehors de tout lien de consanguinité, et d'où la publication des bans, et l'enquête sur les liens de parenté entre les futurs époux. Il ne doit pas y avoir de lien de consanguinité entre les époux. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, dans l'Église catholique, les mariages entre cousins germains sont interdits et qu'il faut une dispense de l'État ou de l'Église pour obtenir la liberté de se marier. Ce Concile de Trente, promulguant la liberté des époux dans le consentement, à la grande surprise de l'historien, ce décret, premièrement, n'a pas été appliqué, ne l'a été en France qu'à partir de 1615, avec la promulgation du Concile de Trente par Marie de Médicis. Et enfin, il a fallu que le royaume lui-même interfère avec l'Église dans cette décision de la liberté des époux, puisque le roi Henri III, dans une constitution, dans une ordonnance royale, a déclaré que quiconque se marierait sans l'accord des parents pouvait, à ce moment-là, être poursuivi ainsi que le prêtre qui aurait précédé et qui aurait célébré le mariage pour rapt d'intelligence ou rapt de séduction avec le concours du prêtre. Et avec cette ordonnance, qui en même temps a refusé le remariage des veuves, chose que l'Église là aussi a toujours autorisée, on voit l'Église protéger la liberté des jeunes époux, tandis que les parlements locaux, eux, ont le droit d'accueillir des plaintes des parents furieux du mariage de leurs enfants et obtiennent la rupture du mariage de leurs enfants s'il n'y a pas eu accord des parents. C'est la monarchie d'Ancien Régime qui a lutté contre l'application du Concile de Trente. Il faudrait peut-être s'en souvenir. Il faut attendre ce fait paradoxale qu'est le 21 septembre 1792, la suppression des registres paroissiaux par l'Assemblée législative, qui à ce moment-là proclame que la liberté du mariage doit être totale. Certes, on en profite pour supprimer les vœux perpétuels, mais en même temps, on proclame la liberté du mariage et le registre paroissial devient le registre municipal sur lequel sont inscrits les noms des époux, ce qui fait qu'aujourd'hui, le mariage civil français, qui a été rendu obligatoire même aux dépens du mariage religieux, le mariage civil français est la moitié du mariage chrétien.
Nous allons observer une petite page musicale avant de reprendre notre entretien. Donc nous reprenons notre entretien avec Michel Rouche autour de son livre « Petite histoire du couple et de la sexualité ». Nous avons vu donc dans cette deuxième partie quelle était la novation du christianisme dans cette petite histoire, à savoir la valorisation de la chair, l'égalité et le consentement. Alors il y a un point qui est très important dans ce que vous dites, là aussi c'est une idée toute faite qui semble mise à mal, à savoir qu'effectivement, à partir du moment où le christianisme aurait mis la main sur la société et aurait dirigé les consciences, les cœurs et le système politique, à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition entre la société d'une part et puis le christianisme ou l'Église d'autre part. Pas du tout, dites-vous. Il y a eu une opposition constante entre, disons, le pouvoir politique et puis effectivement le christianisme. Vous avez parlé juste avant effectivement de ce concile de Trente qui ne s'applique pas. Vous dites dans votre livre une chose là aussi étonnante, c'est qu'il y a eu une invention pour les moniales de la clôture, non pas pour que les bonnes sœurs soient préservées du monde, mais pas pour rester entre soi, mais pour éviter qu'elles soient raptées par les hommes, considérant effectivement que ces dames avaient par ailleurs du bien et que donc on sortait à ce moment-là de cela. Et on a vu juste avant effectivement ce qu'il en était du procès fait par les parents contre les curés qui avaient célébré un mariage sans l'accord des parents. Donc je voudrais que vous nous donniez sur cette opposition-là, sur ce conflit entre, disons, un ordre politique ou un ordre social qui est soucieux de la reproduction sociale d'une part et de la transmission des biens d'un côté, et de l'autre, disons l'Église, qui elle insiste sur ces trois éléments. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une illustration de ce conflit constant entre l'Église d'une part et puis effectivement la société, et pour nous limiter au moins à l'Occident?
Le conflit a été constant depuis 392, date de la promulgation de l'union de l'Église et de l'État. La preuve en est que jusqu'en 744, toutes les sociétés et les royaumes de cette époque refusent de s'aligner sur un système de chrétienté, le système de chrétienté étant celui où normalement la loi religieuse, puisque tout le monde est chrétien, doit coïncider avec la loi civile. Or, on constate que chaque fois que l'Église cherche à faire passer certains aspects du mariage chrétien dans la loi civile, les pouvoirs civils répondent négativement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour l'interdiction du divorce. Il faut attendre 744 pour que le divorce soit interdit par une loi civile. De même, en ce qui concerne l'interdiction du divorce pour stérilité de l'épouse. C'est là où l'Église a défendu la femme jusqu'au bout et a déclaré que ce qui constitue le mariage, c'est l'union charnelle, c'est pas l'enfantement. C'est le cas en particulier de Lothaire II, roi de Lotharingie, qui de 860 à 869, essaie vainement de divorcer avec son épouse légitime pour épouser sa concubine qui lui avait donné un enfant. Et l'autorité ecclésiale est même réduite à quilla, quasiment, lorsque on s'aperçoit, tout à fait peu de temps avant la mort du roi, qui est mort d'ailleurs sans avoir pu divorcer, qu'il n'y a plus que Hincmar, l'archevêque de Reims, et Nicolas Ier, le pape, qui sont sur ce plan-là. Même le concile lotharingien avait fini, grassement payé d'ailleurs, par accepter le divorce du roi. C'est un combat continuel. Un combat que l'on retrouve avec Henri VIII, par exemple, au XVIe siècle, où, pour les mêmes raisons, Rome refuse le divorce d'Henri VIII, étant donné que son mariage a été légitime, et qui plus est qu'il y a même eu un enfant. Certes, il y en a eu 4 ou 5 qui sont morts-nés, et il y a une fille seule qui a survécu, mais le principe est toujours le même. La sainteté du mariage doit être défendue, quoi qu'il arrive, au risque même de l'unité d'Église, puisque l'Église anglicane est sortie de ce refus du divorce d'Henri VIII. Ce comportement se retrouve au cours du XIIIe siècle, lorsque on insiste dans une société qui reste misogyne sur le fait que la femme est l'égale de l'homme. C'est par exemple l'évêque de Paris, Pierre Lombard, dans ses sentences, qui est le manuel de formation de tous les prêtres jusqu'au Concile de Trente. Pierre Lombard déclare « Si l'on prend la Bible et que l'on regarde la création d'Adam et Ève, on s'aperçoit que Ève a été tirée de la côte d'Adam. Si Dieu avait tiré Ève de la tête d'Adam, ça aurait été la preuve qu'elle est supérieure à l'homme. Il ne l'a pas fait. S'il l'a faite autrement, s'il ne l'a pas faite à partir des pieds de l'homme, ça aurait été la preuve qu'elle est inférieure à l'homme. Or, Dieu a fait cette femme à partir du côté de l'homme. Derrière le côté de l'homme, il y a le cœur. C'est donc bien la preuve que la femme est supérieure à l'homme sur le plan de l'amour. Il y a donc, si vous voulez, une réhabilitation de la femme qui progresse lentement. Et le culte marial en particulier rencontre de nombreux obstacles. Songez que Thomas d'Aquin, par exemple, refusait le culte de l'Immaculée Conception. Il y a donc toute une série d'actions qui sont continuellement refusées par les chrétiens eux-mêmes. Et les rois, en particulier le roi de France, a contribué à lutter contre le magistère religieux et intellectuel de l'Église. Ça n'a pas commencé avec la Révolution, c'est bien antérieur.
Dans ce supposé bloc entre le pouvoir politique, la société d'une part, et puis l'Église, en Occident, il y a deux histoires donc, que vous tissez à l'intérieur. Un, celle des conflits entre le pouvoir politique et le pouvoir social et l'Église, l'un insistant plutôt sur la transmission, sur l'autorité, sur une forme de paternalisme, enfin de la transmission des biens d'une part, et deuxièmement, l'Église insistant plutôt sur l'égalité, le respect du consentement, etc. Bon, et puis il y a une autre histoire au sein du christianisme, entre ce que vous appelez une vision optimiste d'une part et une vision pessimiste. La vision optimiste, c'est l'égalité de l'homme et de la femme, la valorisation du mariage, le caractère sacré de la sexualité, et puis une vision pessimiste qui se caractérise essentiellement par le dégoût de la chair, par la soumission des femmes, par la suprématie du célibat consacré sur le mariage. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner aussi les grands moments, mais une idée aussi de cette évolution au sein du christianisme entre cette vision optimiste, égalitaire pour le faire vite, et cette vision pessimiste, inégalitaire et donc de soumission.
Alors le combat à l'intérieur de l'Église entre la vision pessimiste et la vision optimiste commence avec le développement du courant monastique au IIIe siècle en Égypte et puis à travers toute la Méditerranée et l'Europe occidentale. Étant donné que la virginité étant considérée par les moines comme une anticipation du royaume de Dieu, il est indispensable que le mariage soit équilibré par un célibat qui, en quelque sorte, oriente le mariage vers l'avenir, vers le paradis. C'est saint Jean Chrysostome qui dit « c'est le mariage qui produit les vierges ». Donc, normalement, dans un esprit monastique équilibré, il devrait y avoir aussi équilibre entre le mariage et le célibat consacré. Mais, étant donné le combat que les ermites, au fond du désert, doivent livrer à leur imaginaire sexuel particulièrement débridé, et normalement débridé dans la solitude, il y a chez Évagre le Pontique, chez Tertullien et bien d'autres, il y a une vision pessimiste de la sexualité, considérée comme quelque chose d'irrépressible, impossible à maîtriser. Et ceci développe une vision misogyne, d'autant plus que toute la littérature romaine, païenne, antique, est là pour les renforcer dans cette vision. Et donc la vision pessimiste a toujours une force extraordinaire à travers toute l'histoire de l'Église. Elle se retrouve dans une partie, je n'ai pas dit tout le mouvement monastique, mais dans une partie du mouvement monastique, dans une partie du clergé, dans une partie des écrivains laïcs du XIVe et du XVe siècle lors de la crise de la chrétienté médiévale, lorsque la chrétienté médiévale échoue, lorsqu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas remplacer totalement la législation civile par la législation religieuse, il y a un regain de la misogynie au XIVe et XVe siècle chez les écrivains chrétiens. Et il faut bien distinguer les écrivains chrétiens qui sont condamnés par l'autorité ecclésiale et ceux qui sont acceptés, ceux qui traduisent par exemple l'art d'aimer d'Ovide au XIIIe siècle, qui est un manuel en français de conseils sur la vie du mariage et sur l'usage de la sexualité. Jamais cette traduction en français de Jacques Damien n'a été condamnée par l'autorité ecclésiale, alors que l'art d'aimer d'André Le Chapelain, qui est une technique de séduction des femmes mariées dans le cadre de l'amour courtois, là, il y a eu une condamnation ferme et féroce et qui a renforcé aussi le pessimisme. Donc, on est dans un monde qui oscille constamment entre la vision pessimiste de la sexualité dans le mariage et la vision optimiste. Cela recommence au XVIIe siècle avec le jansénisme et avec les mouvements mystiques de la fin du XVIIe siècle, je crois qu'on a ici affaire à une espèce de constante où les optimistes sont continuellement contrebattus par les optimistes. Prenez par exemple Jonas d'Orléans, qui en 830 a publié un De institutione laicali, c'est le premier ouvrage de spiritualité conjugale à l'usage des gens mariés. Le livre de Jonas d'Orléans a été enterré très très rapidement, on n'a guère parlé de lui. Même chose en ce qui concerne la vision optimiste de François de Sales dans son introduction à la vie dévote. Ces deux chapitres sur l'honnêteté du lit conjugal et sur la vie du mariage ont été censurés à partir de 1850, alors que les éditions des ouvrages de François de Sales ont été extrêmement nombreuses. Et il a fallu attendre la publication complète et totale des œuvres de François de Sales dans la Pléiade en 1960 pour que nous ayons l'introduction à la vie dévote dans sa totalité. Il y a là un combat qui est d'autant plus difficile à faire apparaître en pleine lumière que la vision pessimiste se pare de l'exercice de la vertu et que la vision optimiste peut toujours paraître comme étant une tendance au relâchement et une vie qui laisserait la place à tous les désirs. Sur ce plan-là, la réponse vient enfin d'être donnée par l'encyclique de Benoît XVI sur Dieu est amour quand il supprime cette distinction qui était une distinction pessimiste, qui était une distinction luthérienne. Je rappelle le grand livre dont on parlait beaucoup dans les années 50, le livre de l'évêque luthérien Nigrène, Eros et Agapé. J'ai entendu reprendre cette distinction par Jean Guiton. Benoît XVI dit, mais non, Eros et Agapé, c'est la même chose, c'est le même désir d'amour. Et il est indispensable de comprendre que c'est la totalité de la personne humaine qui est concernée par cette maîtrise de la sexualité. Mais cette maîtrise de la sexualité n'apparaît pas comme évidente aussi bien à ceux qui nous ont précédés qu'à nos contemporains.
Mais ça veut dire que ces oscillations entre une vision optimiste et une vision pessimiste ont comme origine quoi ? Des débats théologiques ou ce patriarcat qui, de manière ou d'une autre, revient, ce souci de l'ordre politique et ou de l'ordre social qui revient et qui laisse à supposer qu'effectivement, l'égalité, la chair sacrée et le consentement peuvent être mis de côté. Enfin, quels sont les éléments de basculement
de là ? Il y a les débats théologiques, mais il y a surtout la vieille conception païenne qui ne veut pas disparaître, qui est la conception matérialiste de la pureté. Il y a une phrase de l'Évangile qui ne rentre pas dans la tête des chrétiens et qui ne peut rentrer, à mon avis, dans la tête des chrétiens qu'à partir du XXIe siècle. C'est la phrase de l'Évangile, ce n'est pas ce qui va aux latrines qui est impur, c'est toute parole mauvaise qui sort de la bouche de l'homme. Lorsque les moines mettent la luxure comme péché principal en tête des péchés mortels, alors que les évêques, qui eux sont au contact des chrétiens, mettent en tête des péchés mortels l'orgueil, il y a là le conflit. Ce conflit qui consiste à croire que, à coup de volonté, on arrivera à dominer la sexualité, c'est le tort des optimistes, et que, en étant obsédé par la pureté, et c'est le tort des pessimistes, on arrivera à maîtriser la sexualité. Non, la sexualité est un ensemble qui sera maîtrisé, et par conséquent, il y a là une espèce d'ambiguïté qui fait que, surtout chez le monde des femmes, la conception matérialiste de l'impureté a duré très longtemps, et surtout dans un monde à dominante rurale. Or, ce n'est que depuis 1930-1950 que la proportion des paysans est passée de 50% de paysans à 6%, puis 2% aujourd'hui, dans un monde rural où l'on vit dans la saleté à peu près continuellement jusqu'aux époques récentes, il est compréhensible que le pessimisme ait eu autant de succès et autant de partisans.
Mais cette vision optimiste d'un côté et pessimiste de l'autre au sein du christianisme, vous le semblez dire que, disons, les textes des évêques, les textes des papes sont moins affectés par cela et que ce rappel de la chair d'égalité et du consentement sont une constante des textes ecclésiastiques.
Au niveau le plus élevé, oui. Il est évident que les décrétales ou les conciles ne parlent pas de ces questions de vision pessimiste ou optimiste de la sexualité. Il y a là très souvent des affirmations théologiques sur la grandeur de l'union charnelle et sur le fait que l'union des Christ et de l'Église est fondamentale. Peut-être l'encyclique de Pie XI 1930 sur Castic Connubii a une connotation pessimiste. Il n'empêche que je signale que cette encyclique a été accueilli avec beaucoup de faveur par tout le monde et toutes les opinions politiques, mais on était en 1930.
Oui, donc il y a une vraie résistance, c'est ça que vous dites, il y a une vraie résistance très forte de la société et d'une partie du clergé selon les moments face à la novation chrétienne.
L'innovation chrétienne a presque tout le temps été refusée dans le domaine de la sexualité. elle est absolument impensable parce qu'elle va très loin et qu'elle dérange tout le monde dans ses pratiques personnelles.
Nous allons observer une dernière page de musique avant de reprendre notre entretien. Nous reprenons donc notre entretien avec Michel Rouche autour de son livre « Petite histoire du couple et de la sexualité ». Alors je voudrais en venir maintenant au 19e siècle qui pour certains semble être l'élément qui nous cache ce qui s'est passé avant et ce retour du puritanisme qui, nous dit Michel Foucault, dans son histoire de la sexualité, a été mis en avant, ce puritanisme, pour tenir, pour mettre en avant l'ordre bourgeois et asseoir le pouvoir. Vous vous dites que cette répression sexuelle du 19e siècle, ce puritanisme du 19e siècle, est plutôt, dites-vous, un désir de paix et de stabilité qui vient du peuple plutôt que de l'ordre bourgeois. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce point-là ?
On constate en effet que le mouvement puritain commence vers 1750 et il a été particulièrement illustré par les médecins genevois, Tissot et compagnie, qui ont commencé le grand combat contre la masturbation. Ce qui a été une obsession qui s'est répandue sous couleur scientifique par ces médecins genevois, suivis par les médecins anglais, à partir donc de ces années-là. Et en réalité, les opinions politiques ou sociales populaires étaient d'accord avec ce type de comportement parce que on entre dans une deuxième phase de l'histoire de la sexualité qui est, à partir de 1720-1725, la fin de l'obsession de la procréation.
Et puis la fin, vous dites, à partir de 1720, la fin des famines, la fin des grandes épidémies qui ont ravagé complètement l'Occident. Donc, on est préservé d'une certaine façon.
La mort ne frappe plus de manière aussi violente qu'avant 1720. On n'a plus les grandes périodes de peste et de famine. Et par conséquent, au lieu pour garder vivant 3 ou 4 enfants, et il fallait en mettre au monde une douzaine ou une quinzaine, on s'aperçoit à partir de 1720-1750 que désormais, on garde 8, 10, 12 enfants vivants. Et naît alors cette impression, renforcée là encore par les protestants et par le pasteur Malthus, avec son livre « Essai sur le principe de population », il y a trop de convives au banquet de la nature. Ce qui est une erreur sur le plan économique, puisqu'on s'est aperçu qu'une natalité en progrès dans les pays occidentaux aboutissait à un développement de l'économie, de l'agriculture et de l'industrie. Mais il n'empêche que les paysans, eux, sont d'accord. Et la restriction des naissances apparaît dans les campagnes françaises et occidentales pour justement essayer de ne pas faire des petits malheureux, selon l'expression de l'époque. Et ce puritanisme qui se développe, se marque en particulier par la pratique de l'union interrompue, férocement réprouvée par l'Église, et qui va jusqu'à refuser la communion aux hommes et aux femmes qui pratiquent l'union interrompue. Et ce qui a déclenché d'ailleurs la déchristianisation, en particulier la déchristianisation chez les hommes, qui étaient considérés comme les responsables, puisque c'était eux qui se retiraient.
Là, sur ce point, vous êtes extrêmement sévère à l'égard d'un certain clergé. Vous dites qu'il y a une méconnaissance de la sexualité, une insensibilité à l'égard des couples, qui effectivement, pendant tout le 19e siècle, dans les confessionnats, une forme de traque pour effectivement condamner une sexualité qui n'aboutirait pas seulement à la procréation.
C'est exact. Effectivement, le clergé ne comprend pas, tel qu'il est formé et tel qu'il est d'origine paysanne, la plupart du temps, il est persuadé que le nombre des enfants est une bénédiction et qu'il faut laisser faire la nature. Ce qui est une incompréhension par rapport aux angoisses des parents. Ceci est particulièrement net. Et le problème de la maîtrise de la sexualité va commencer à se poser au cours du 19e siècle, d'autant plus que l'Église, ayant fait alliance avec le romantisme, va mettre de plus en plus en avant non plus l'aspect social et politique du mariage, mais l'aspect sentimental et l'aspect amoureux. Et l'on peut dire qu'à partir des années 1820-1840, le mariage d'amour gagne de plus en plus en profondeur et en faveur. Et alors, justement, à ce moment-là, comme on s'aime et que, justement, on ne voudrait pas faire des petits malheureux, on est encore plus inquiet et encore plus furieux contre l'autorité ecclésiale de ne pas pouvoir, justement, avoir le nombre d'enfants que l'on veut et que l'on peut choisir. Et sur ce plan-là, le 19e siècle est un siècle qui insiste sur deux points. Premièrement, la maternité. D'ailleurs, du point de vue scientifique, c'est l'époque de grands progrès en matière d'obstétrique. Et aussi le mariage par consentement mutuel qui triomphe vers 1880-1890 et qui devient général dans la société alors qu'il avait été autorisé par la Révolution française.
Mais ce que vous dites aussi, c'est que ce puritanisme qui va durer jusqu'en 1930 ou 1950, ce puritanisme-là a comme contre-effet l'exaltation de la famille qui se fait, dites-vous, au détriment du couple et de la sexualité du couple. Donc il y a un effet de déplacement du centre d'intérêt, donc de reniement d'une certaine façon,
tout à fait,
de l'originalité chrétienne.
La famille se déplace du père chef de famille sur l'enfant roi. On passe de l'enfant roi au parent martyr, parce qu'on décentre la famille en oubliant la dimension conjugale, étant donné que tout le XIXe siècle n'a fait qu'insister sur la dimension maternelle. C'est le gros obstacle de l'Église au cours du XIXe siècle. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train d'éliminer les hommes de l'Église et que la pratique religieuse devient essentiellement une pratique féminine. Étant donné que dans les confessionnaux, le rôle des prêtres a été énorme et qu'ils étaient les seuls à recevoir les confidences des épouses. Et sur ce plan-là, ils ont contribué énormément à la stabilité du mariage, même si le divorce commence à être autorisé par la loi Naquet à partir de 1884. C'est là un des aspects contrastés du XIXe siècle qu'il ne faut pas oublier.
Donc vous dites bien qu'il y a dans le clergé la prédominance d'une vision pessimiste qui s'impose à ce moment-là ou qui revient en force à ce moment-là et un fossé gigantesque qui s'instaure entre cette inquisition, je crois que c'est le terme que vous employez, cette inquisition dans les confessionnaux sur effectivement les pratiques sexuelles du couple d'une part et deuxièmement, ce qui éloigne beaucoup de chrétiens, surtout dans les campagnes, de la pratique religieuse.
Voilà, et ce n'est que lorsque l'autorité ecclésiale, le corps épiscopal, demande que l'on n'interroge plus dans les confessionnaux sur ces questions que petit à petit...
Et ça, ça date de quand, ça ?
C'est vers 1860-1880. Et puis, avec l'apparition, en même temps, des premiers théologiens qui s'occupent de la spiritualité du mariage. Vers la fin du XIXe siècle, il y a des écrits qui apparaissent et qui vont dans ce sens-là. Et ceci d'autant plus que la restriction des naissances en 1901 et 1903 aboutit à, en France, un surplus de morts, si j'ose ainsi m'exprimer, par rapport au nombre des naissances. Et donc, la dénatalité du début du XXe siècle va faire changer d'état d'esprit et les autorités religieuses et les autorités civiles, ce qui fait que les autorités civiles elles-mêmes se mettent à prêcher en faveur de la natalité, à commencer par Paul Leroy Beaulieu, qui est un économiste persuadé que s'il y a des natalités, la ruine économique va s'en sortir. C'est là qu'on entre dans une nouvelle époque avec, à partir de la Première Guerre mondiale, une prise en considération de la femme qui, la plupart du temps, a été ouvrière en usine et qui a comblé les vides des hommes qui étaient au front. Combien de femmes ont tiré la charrue pendant la Première Guerre mondiale ? Il va y avoir, durant l'entre-deux-guerres, des actions en faveur du mariage et en faveur de la femme. La plus étonnante et la moins connue étant celle de la Chambre Bleu Horizon, dont l'un des députés, Jean Le Court-Grandmaison, m'a expliqué un jour que, ayant voté deux lois qui leur paraissaient capitales, première loi, la loi sur le droit de vote des femmes, deuxième loi, l'interdiction de l'avortement, Jean Le Court-Grandmaison me disait « Nous avons été des enfants de cœur, le Sénat, qui était aux mains des radicaux socialistes, a voté, comme par hasard, l'interdiction de l'avortement avec peine de mort contre les avorteurs ou les avorteuses et a refusé le droit de vote pour les femmes. Ce qui est bien la preuve que le catholicisme a une vision originale de la sexualité et de la place de la femme par rapport à l'homme, mais qu'à chaque fois, il se heurte à des résistances générales de tous les côtés.
Je voudrais que, dans ce résumé, cette discussion que nous avons autour de votre livre, que nous abordions donc la dernière partie de votre livre sur, disons, les éléments de libération de mai 68. Donc, qu'est-ce que la libération des mœurs telle qu'elle a été vécue à ce moment-là et avec, comme on l'a vu au début, peut-être le pentimento de certains, dont Pascal Bruckner, sur les acquis, sur cet élément de libération. Quel regard est-ce que vous portez sur cette sexualité post-68 qui, peut-être maintenant, est en train de refluer vers l'innovation, la merveille, pour reprendre à peu près l'idée de Pascal Bruckner, de la fidélité du mariage ?
Alors, nous sommes dans une série de phases action-réaction. De 1945 à 1972, jamais le mariage en France n'a été aussi populaire. Tout le monde s'est marié. Jamais le nombre des célibataires laïcs, non compris le clergé, n'a été aussi faible. C'est donc bien la preuve du triomphe du mariage d'amour, par choix mutuel libre du conjoint. Puis, avec le rebond des naissances, qui ont toutes été des naissances volontaires, s'est posé à partir des années 70, dans une perspective due essentiellement à l'élévation du niveau de vie et à l'enrichissement formidable des Trente Glorieuses, on a commencé à trouver que le nombre des enfants qui naissaient était de plus en plus important et que c'était des fatigues supplémentaires et gênantes pour les femmes, d'autant plus que le métier des femmes a commencé à se généraliser. Et donc, la libération de mai 68 s'explique par le fait d'une révolte d'enfants nés de milieux qui ont eu des conditions de vie particulièrement avantageuses. Et ils ont cru que les critères qui avaient permis ces succès du mariage dans la première moitié du XXe siècle étaient des critères périmés. Autrement dit, la crise de mai 68 est une crise de l'assaise. L'assaise que les parents se sont imposés durant l'entre-deux-guerres, durant la Deuxième Guerre mondiale et après, a été considérée comme brimante et comme, en quelque sorte, blessante. Elle ne pouvait plus se maîtriser comme cela. Et effectivement, les moyens étaient particulièrement primitifs, qu'il s'agisse de l'union interrompue ou qu'il s'agisse du préservatif qui sortait à peine des casernes. Donc, cette révolte est compréhensible, mais elle a rapidement touché le fond, étant donné que la libération laissait des groupes communautaires sexuels à rapidement tourner court. Ça a duré 5-6 ans. Ça ne s'est pas prolongé très longtemps. Il y a eu brusquement la découverte de l'abandon par l'autre, de la blessure par l'autre. Et puis surtout, nous sommes entrés à partir de 1978 dans une crise qui est extrêmement grave chez les jeunes. Nous sommes dans une épidémie de suicide depuis 1978, une épidémie de suicide qui frappe les jeunes de 18 à 35 ans. Et cette épidémie de suicide est la preuve que la plupart du temps, on n'arrive pas à trouver son équilibre dans le rapport avec l'autre. Et la proclamation de l'identité quasiment de la femme avec l'homme a aussi fait brusquement apparaître l'impuissance de la femme à être exactement comme l'homme. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, si identité il n'y a pas, mais égalité, quel type de rapport pouvons-nous mettre au point entre l'homme et la femme? C'est donc toute une nouvelle politique du rapport de l'homme à la femme qui est à mettre à jour aujourd'hui. Comment comprendre l'étrangeté de l'autre? Or, cette étrangeté de l'autre dans le mariage est une chose qui ne peut être découverte que lentement dans le temps. Et lorsque les gens qui se marient commencent à s'apercevoir que quand on se marie, on en prend pour 50 ans, avec l'augmentation considérable de l'âge de la mort de l'homme et de la femme, puisqu'on en est aujourd'hui à 78 ans pour les hommes et 81 ans en moyenne pour les femmes, nous sommes donc devant une nouvelle situation, une situation complètement inédite, puisque ça veut dire que la phase parentale dans le couple va désormais être plus courte que la phase conjugale. Nous sommes donc confrontés de nouveau à un rééquilibrage du conjugal dans le couple et non plus de la maternité et de la paternité comme au XIXe siècle. C'est là la grande nouveauté de notre époque. Nous sommes obligés de créer un nouvel équilibre à partir de cette constatation que l'homme et la femme sont quasiment des étrangers l'un pour l'autre et sont des analphabètes du cœur.
Mais quand on fait un peu de prospective, et ça sera ma dernière question, est-ce que vous êtes-vous plutôt optimiste, considérant effectivement qu'il y a encore tout un potentiel à découvrir, ou est-ce que vous considérez, si on regarde la destruction progressive des éléments du mariage, la remise en cause même de l'égalité des sexes avec l'invention des genres qui sont là pour considérer que la pratique sexuelle prévaut sur la différence sexuelle et que donc maintenant ces anciens modèles sont périmés et dépassés et qu'il faut en revenir à la pratique plutôt qu'à la différence sexuelle. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt optimiste ou est-ce que vous considérez qu'on est arrivé au bout du bout de cette histoire du couple et de la sexualité qui maintenant ne peut que s'effondrer dans une situation où plus rien, toutes les références anciennes tendent à disparaître complètement?
Comme je viens de vous le dire, action-réaction. Succès, l'époque des Trente Glorieuses pour le mariage, puis déstructuration, crise de la 16. Je crois que les souffrances actuelles, avec plus de 50% de divorces, sont telles qu'elles ne peuvent que pousser nos contemporains à un nouveau rééquilibrage dans la découverte du rapport de l'homme à la femme, que ce soit dans le cadre d'un concubinage à vie ou d'un mariage à vie, ça m'est égal. Mais la redécouverte de la liaison avec l'autre comme découverte de l'inconnu, cela me paraît être l'avenir. Il s'agit vraiment pour nos contemporains de sortir des souffrances actuelles pour mettre au point une conception de la différence et une acceptation de l'autre, une acceptation de l'autre dans la réciprocité. Ce qui est très difficile, étant donné que soit on a le combat féministe d'un côté, soit on a le vieux réflexe machiste du côté masculin. Dans les deux cas, ce sont des positions à abandonner. Et c'est pourquoi je dis que lorsque l'on verra accepter la différence sexuelle comme étant fondamentale, et non plus la pratique, lorsque la différence sexuelle sera vraiment acceptée comme telle, alors à ce moment-là, nous verrons peut-être le divorce commencer à reculer. Et lorsque le divorce reculera sur le plan quantitatif, alors à ce moment-là seulement, je crois que le racisme sera en train de reculer.
Mais Michel Rouche, merci beaucoup. Donc je renvoie nos éditeurs à cette petite histoire du couple et de la sexualité, donc qui est la deuxième édition, donc qui est parue en 2008. Et petit livre, à la fois extrêmement clair dans sa lecture, extrêmement stimulant et qui brasse comme ça toute une perspective sur les 500 000 ans dont parlait Françoise Héritier, mais vu d'une autre manière et vu par vous. Michel Rouche, merci beaucoup.
Je vous remercie.